100 ans d'histoire. Innovation scientifique, relations internationales et succès culturel. Jean Saraméa, historien, raconte les années décennales anniversaires de 2024.
Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous convier à un voyage dans le temps particulièrement reculé. Puisque j'ai cherché quels ont été les événements importants, mais aussi les personnages vivants et connus à l'époque, eh bien, il y a un demi-millénaire, donc il y a 500 ans, l'année 1524. Eh bien, c'est assez dense. Au niveau international, y compris français, et puis on verra ensuite les aspects typiquement culturels. Charles Quint est empereur du Saint-Empire romain germanique depuis 4 ans. Oh, il a tout juste 24 ans. C'est un jeune homme qui essaie de gérer l'immense empire dont il a hérité et aussi de commencer une très longue confrontation avec le roi de France, François Ier, qui a 30 ans. Voilà, qui a 6 ans de plus que lui. Autrement, Soliman le Magnifique s'installe à Rhodes, il progresse vers l'Europe centrale, il a 30 ans, c'est un conquérant musulman qui va en direction des Balkans et de l'actuelle Hongrie ou Autriche. Les Espagnols s'intéressent vivement à l'Amérique depuis 1492, et commence à s'intéresser à l'Amérique du Nord, parce que depuis l'île de Saint-Domingue, Santo Domingo, le continent proche s'avère pour eux certainement intéressant en termes de commerce. Alors, François Ier, cette année-là, en 1524, va s'y intéresser aussi, et il envoie un capitaine italien, Giovanni da Verrazzano, Verrazzano en français, qui a 43 ans, explorer le nord-est de l'Amérique du Nord. Et quand il va arriver à l'embouchure de l'Hudson, qui beaucoup plus tard deviendra la Nouvelle-Amsterdam, puis New York, eh bien, il bâtit cet endroit la terre d'Angoulême, parce que François Ier est né à Cognac, dans l'Angoumois. Voilà, puis il rentre à Dieppe sans plus. Autrement, pour les Espagnols, Pizarro embarque à Panama pour explorer l'Amérique du Sud, mais par l'océan Pacifique. Et il va arriver, il a 49 ans, il va arriver jusqu'à l'actuel Équateur. Autrement, François Ier s'intéresse très modérément au continent américain, parce qu'il est toujours obsédé par l'Italie. Les États italiens. Il n'y a pas d'Italie comme État moderne. Et il va perdre cette année-là le Milanais, et c'est pendant la retraite de son armée à Romagna Nocesia que le célèbre chevalier Bayard perd la vie à 49 ans. Pas très loin de Pavie, mais ça, ce sera l'année suivante. Autrement, eh bien, le pape de l'époque, Giulio da Medici, Jules de Médicis et Clément VII. Et il est tout à fait opposé à l'extension géopolitique de Charles Quint. Mal va lui en prendre, parce que l'armée de Charles Quint va venir ravager Rome de fond en comble. C'est rare dans l'histoire, entre catholiques. Autrement, en Grande-Bretagne, c'est Henri VIII. Henri VIII, marié à Catherine d'Aragon, et à 33 ans, il est extrêmement dynamique et il développe de façon excellente l'économie anglaise. Restons dans le domaine économique. La France. La France a 18 millions d'habitants. C'est un pays très peuplé, même s'il est loin d'avoir ses frontières actuelles. Et ce n'est pas qu'anecdotique. Revenu avec les armées françaises d'Italie, se développe la culture des asperges, qu'on ne connaissait pas auparavant. Mais, par contre, il faut bien imaginer que même si on a découvert ces plantes comestibles en Amérique, elles ne sont pas encore cultivées en France. Ni le maïs, ni les tomates, ni les pommes de terre, ce sera bien plus tard. Paris, pour l'époque, est une grande ville, 200 000 habitants. Par rapport aux autres villes européennes, la France est quasiment le pays le plus peuplé, avec des villes considérables pour l'époque, comme Lyon, comme Marseille, le port de Bordeaux également. Alors, passons un petit peu à l'aspect culturel. Dans le domaine scientifique, le savant polonais Copernic a 51 ans et il est en train de développer ses observations, donc le sortir de la Terre au centre du système solaire pour passer à quelque chose de beaucoup plus vrai et de beaucoup plus moderne, mais il est très prudent. Un nom que l'on utilise encore, c'est un mathématicien italien, Girolamo Cardano, qui va donner le nom au cardan dans nos machines roulantes. Il a 23 ans et pour l'instant, il est en train de perfectionner la boussole qui est arrivée d'Asie. Dans le domaine économique des mines et de la monnaie, c'est en Europe le règne d'une famille célèbre, les Fugger, F-U-G-E-R, qui a 65 ans, qui possède de magnifiques mines de cuivre et d'argent dans le Tyrol autrichien, et c'est lui qui va avancer les sommes d'argent nécessaires à Charles Quint pour être élu à la tête du Saint-Empire. François Ier n'a pas des mines comparables, et donc il sera le grand perdant de l'élection impériale. Dans le domaine littéraire. Bon, on a oublié la plupart des poètes de l'époque, tout de même Marot. Marot, qui est toujours dans nos livres de littérature, il a 74 ans, il a encore 2 ans à vivre, et il est assez connu. C'est l'époque des humanistes de la Renaissance. Pour la France, c'est Guillaume Budet. Mathématicien, helléniste, pédagogue, c'est lui qui, à la demande de François Ier, va créer le Collège de France, qui existe toujours. Il a, à l'époque, 57 ans. Rabelais. Alors, Rabelais est moine, en 1524. Il voyage, il observe, mais à 41 ans, semble-t-il, parce qu'on connaît mal sa date précise de naissance, il écrira ses célèbres ouvrages bien plus tard. Clément Marot, ce n'est pas Jean, a 28 ans, il est à la cour de Marguerite d'Alençon, et c'est un poète aimable, disons, tout à fait dans les veines de la Renaissance, il écrit des épîtres. Bon. Érasme, Érasme d'origine hollandaise, 55 ans, c'est vraiment le grand représentant de l'humanisme. Cette année-là, il est à Bâle, il voyage dans toute l'Europe et il rédige son célèbre essai philosophique sur le libre arbitre. Autrement, en Italie, c'est l'Arioste, qui a 50 ans, qui est connu, qui remanie toute sa vie l'Orlando Furioso, qui est son œuvre principale. Voilà. En Angleterre, c'est Thomas More, 46 ans, qui est en train d'écrire l'Utopie. Et puis, alors pour la France, 1524, je ne sais pas si ça va être fortement commémoré, le 11 septembre, c'est la naissance de Ronsard, le prince des poètes du XVIe siècle. Bon, évidemment, la naissance, il n'est pas connu, mais ce sera peut-être bien plus que Du Bellay, qui sera beaucoup plus jeune que lui, peut-être le poète quand même français le plus connu, hein, Mignonne, allons voir si la rose, etc., parce que c'est intemporel, ça s'adresse à tous nos sentiments et à toutes les situations possibles. Dans le domaine des arts, Lucas Cranach, 48 ans, qui est un ami de Luther. Alors, disons quelques mots. Luther a 41 ans, il s'est fait connaître en 1517 et il est en train de développer sa doctrine à partir de l'est de l'Allemagne. Il n'y a pas que Luther qui refuse le rôle prééminent du pape et de Rome. Et il a particulièrement du succès en Allemagne puis en Europe du Nord parce que refuser Rome, c'est arrêter de payer les impôts que paye tout catholique en Europe vers Rome, la dîme essentiellement. Donc pour la Suisse, c'est Zwingli ou Zwingli, Ulrich, qui va réformer l'Église suisse et qui rejette toute autorité de Rome. Donc on est dans le début de ce qu'on appelle la réforme, avec un R majuscule, qui va bouleverser toute l'Europe, avec des conflits très importants. Albrecht Dürer. Alors Dürer a 51 ans, c'est le grand peintre allemand du XVIe siècle. Il est à Nuremberg, mais il voyage beaucoup. C'est le représentant de la Renaissance allemande. Il écrit des traités de peinture, mais il nous reste énormément d'œuvres, de portraits, mais pas seulement, de Dürer. Autrement, Holbein le Vieux et Hans Holbein le Jeune. L'un a 59 ans, l'autre 26 ans. Ce sont des peintres qui sont toujours très connus et très recherchés. Ce sont des portraitistes pour l'essentiel et liés à Erasme au niveau des messages qu'ils essaient de faire passer. Alors, si François Ier est tellement attiré par l'Italie, et ce n'est pas le premier de nos rois dans ce cas, c'est que François Ier est subjugué par la vitalité des arts italiens qu'il rencontre dans toutes les villes, évidemment. Rappelons que il avait fait venir Léonard de Vinci, mais Léonard de Vinci est déjà mort depuis 5 ans, hein, en 1524. Donc c'est Andrea del Sarto qui est à Florence, qui est le représentant de la pudeur, de la douceur. C'est il Perugino, le Pérugin, qui vient de mourir à 73 ans. C'est Bronzino, qui a 21 ans, qui est déjà connu et qui travaille beaucoup en Toscane. C'est il Parmigiano, le parmesan, c'est un peintre, hein, qui est à Rome et qui est vraiment un virtuose de la peinture de la Renaissance. C'est le Titien, Tiziano, qui a 88 ans et qui est très célèbre, qui se partage entre Venise et Mantoue. C'est le Corrège qui a 30 ans, qui peint des fresques à Parme cette année-là, et bien sûr Michel-Ange. Michel-Ange a 49 ans, il vivra fort âgé, il est à Florence, il est en train de superviser la construction de la bibliothèque Médicis, c'est un architecte, un sculpteur, un peintre, c'est lui qui fait la renommée, pas seulement, mais beaucoup de l'Italie. Au niveau de la France, c'est Jean Clouet, qui est peut-être moins connu, mais qui va être le portraitiste attitré de François Ier. Et en architecture, ben, on est en train, ce n'est pas trop trop loin d'ici, de terminer l'époque gothique en France avec la magnifique église en gothique flamboyant de Brou, entre Bourg-en-Bresse et Lyon. C'est le stade final du gothique. Au niveau musical, il faut bien imaginer que les gens n'ont pas l'occasion, sinon d'aller dans une salle spécialisée ou d'être proche d'une cour où il y a des représentations, ils n'ont pas l'occasion d'entendre beaucoup de musique. Mais enfin, cette année-là, on construit le premier clavecin. Cette année-là, Philippe de Mons, Mons en Belgique, compose des madrigaux. Et puis, même s'il est mort depuis 3 ans, le compositeur francophone le plus joué, parce qu'il a composé beaucoup de jolies chansons, c'est Josquin, Q-U-I-N, c'est Josquin des Prés. Voilà. Si on peut retrouver une chanson ou un peu de musique de Josquin des Prés, vous comprendrez très vite qu'il y a un demi-millénaire, on vivait dans un autre monde musical par le timbre, le rythme et ce que l'on pouvait entendre, ce qui est logique. Voilà, j'espère que cette petite promenade historique 500 ans plus tôt vous a sans nul doute remémoré bien des noms que vous aviez appris pendant vos études. Et voilà, eh bien, on sautera un siècle pour la prochaine émission.